Bonsoir. Après l'enterrement des 12 membres de la CENI samedi dernier par l'Assemblée nationale, des acteurs tant politiques de la société civile ne cessent de réagir. Parmi ces acteurs, il y a Paul Tchilumbu, député national et porte-parole de l'UDPS, qui, dans son intervention au débat d'hier lundi dans le Dialogue en Congolais, a soutenu que c'est en toute responsabilité que les députés nationaux ont procédé à l'enterrement des nouveaux membres de la CENI. Pour ce dernier, le processus ayant abouti à cet enterrement a été régulier. Il invite le chef de l'État à signer les ordonnances nommant ses nouveaux animateurs. Point de vue que ne partage pas Geneviève Inagosi, députée nationale, membre du FCC. Elle estime plutôt que cet enterrement n'est qu'un passage en force, une barbarie institutionnelle où tout s'est passé en toute irrégularité et en toute illégalité. Elle pense qu'il n'y a que le président de la République qui peut aider la RDC à sortir de cette situation chaotique. Quelle analyse faire du débat autour de cet enterrement? Nous en parlons ce soir avec Jérôme Bosso. Il est président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées. Jérôme Bosso, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kéli. Bonsoir à tous les co-débatteurs et bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la radio de la paix, Radio Okapi.
Maître Hervé Diakiesse, porte-parole du comité laïque de coordination, CLC, et membre de la société civile. Maître Diakiesse, bonsoir.
Bonsoir, Kéli Kouté. Bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et Christian Moleka, il est analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir à vous qui l'écoutez, bonsoir également à tous mes co-débatteurs, mais également à tous nos auditeurs qui nous suivent de partout.
Vous êtes très nombreux, justement, vos auditeurs de Radio Okapi, à réagir au thème de ce soir sur le cas de Sako Dipaouno Désiré depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Je crois qu'il est maintenant temps que le président de la République démontre son impartialité en décidant de ne pas confirmer Kadima comme président de la CENI. C'est là dans le but d'éviter un processus électoral chaotique et aussi montrer à la face du monde qu'il est aussi à l'écoute de la minorité et de la population congolaise. Jean Adali Mukandila, depuis Mbushimayo, Kasai Oriental, le président doit prendre le courage de confirmer la décision de l'Assemblée nationale car Kadima est un expert à la tête de la CENI. À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioekapi.net ou encore sur Canal Plus, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Les réactions continuent de tomber trois jours après l'enterrement des membres de la CENI. Paul Tchilumbu de l'UDPS et Geneviève Inagosi du FCC ont chacun réagi par rapport à cet enterrement. Pour le premier, le processus ayant abouti à cet enterrement était régulier. On écoute Paul Tchilumbu, député national et porte-parole de l'UDPS, dans cet extrait choisi par Guy Maté.
Moi, je dis que le processus a été régulier. Nous avons, et je crois, le bureau a fait montre de beaucoup de patience pour que les confessions religieuses puissent trouver un compromis, puissent trouver un consensus sur le candidat qui devait justement piloter la CENI. Je crois qu'on ne pouvait pas arrêter toute la République parce que justement, il fallait répondre aux caprices des uns et des autres. Le président de la République, je crois, d'ici là va prendre l'ordonnance justement les instituants et je crois que le train de l'élection est en marche.
Geneviève Inagosi, pour sa part, estime que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale n'était qu'un passage en force. C'est un processus irrégulier et illégal. On l'écoute dans cet extrait sélectionné une fois de plus par Guy Maté.
Cet enterrement n'est pas autre chose qu'un passage en force dans une cacophonie indescriptible, un nouvel épisode d'une pièce de théâtre auquel nous avons assisté le week-end dernier. Une barbarie institutionnelle comme on n'a jamais vécu à l'Assemblée nationale, où tout s'est passé en toute irrégularité et en toute illégalité. La première, c'est d'abord l'article 12 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI qui institue la commission paritaire. Il y a un groupe de travail, un club d'amis qui s'est réuni à la demande du président de l'Assemblée nationale à l'hôtel du fleuve et qui s'est fait appeler commission paritaire. Est-ce que notre collègue Paul Chilumbu peut nous dire à ce jour quels sont les noms des députés de l'opposition qui ont pris part à cette commission? Quelle est la décision qui a mis en place cette commission et elle est constituée de quels députés? La situation chaotique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il n'y a que le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, qui peut nous en sortir.
C'était la Geneviève Inagosi, cadre du FCC. Jérôme Bosso, je rappelle que vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'Inédito sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à Haïti. Les réactions continuent de tomber trois jours après l'enterrement des membres de la CENI par l'Assemblée nationale. Il y a tout un débat autour de la manière dont cet enterrement s'est déroulé. Quelle analyse vous faites du débat autour de cet enterrement?
Merci beaucoup, Madame Kelly Kouté. L'analyse porte autour de la confusion que nous constatons dans les chefs même des acteurs politiques et tout ça tire les sources. Il y a des causes. Quelles sont les causes de cette situation? Il y en a deux. La première cause, c'est la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante qui a été réformée, retouchée, révisée. Plus de ça, c'est la quatrième fois. Et deuxième cause, la source de cette situation est l'interprétation de la charte des chefs de confession religieuse. Selon la loi organique, on doit se plaindre aujourd'hui qu'il y a eu des sans papa. J'ai entendu les deux honorables parler de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. C'est parce que la loi organique était dans sa confession, en ce qui concerne la composition et répartition des responsabilités, le législateur congolais, par omission ou bien par intérêt, avait commis une erreur de ce laquelle, dans la désignation de membres de sous-composants sociétés civile, la commission, le parlement, la loi organique a dit clairement qu'il y a des candidats qui sortiraient, des personnes qui des délégués de la sous-composante confession religieuse, dont l'un président de l'autre, membre de la plénière. Et la loi organique stipule que le président de la commission électorale nationale est issu des confessions religieuses. Contrairement aux précédentes lois organiques, qui disaient que le candidat président de la CENI serait désigné par la société civile. Point. Mais étant donné qu'on a désigné des confessions religieuses de la sous-composante de la société civile, et on demande à cette sous-composante de confession religieuse d'amener son candidat. En apportant son candidat, il est jugé parti. Et c'est de là où on va jouer les traîtrises, la corruption, les forces politiques. Et c'est pourquoi le matin est bloqué. Mais on retourne à l'histoire électorale. En 2006, nous avons mis un confession religieuse pour désigner le pouvoir parce qu'on sortit du dialogue intercongolais pour apaiser les uns et les autres des taux de confession religieuse. Et qu'il fallait qu'on le répète en 2011 avec les confessions religieuses. Parce que ça donnait le résultat qu'on t'a donné. Et en amont, quand on a désigné celui de confesser la personne, de confesser le juge pour diriger la CI et la CENI, et ce candidat était toujours contesté par les mêmes confesseurs religieux. Est-ce qu'il fallait continuer? Le législateur congolais devait se poser des questions. C'est pourquoi nous disons, en mettant que le président de la sous-composante confession religieuse et le société sous-confession religieuse, voilà la première lacune de la loi.
Donc selon vous, Jérôme Bosso, il fallait s'attendre à cette situation.
Il fallait s'attendre, on devait changer. Je vous dis que c'est pas la même chose que nous existons. En 2006, en 2011 et en 2018 et récemment en 2020, quand on voulait changer le bureau sortant de l'Assemblée nationale, a voulu construire encore quelqu'un qui viendrait, qui avait été mandaté par les six confessions religieuses. Le spectacle était le même. Et on avait assisté à un blocage. On a assisté encore, je le répète, au ping-pong des chefs de confession qui passaient, qui envahissaient le média pour nous offrir un spectacle que je répète et je qualifie un spectacle désolant, qui n'était même pas à la hauteur de nos pères spirituels.
Jérôme Bosso, vous en tant que président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'Inédite en sigle, et aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, il y a un camp qui dit que cet enterrement était illégal, d'autres soutiennent que c'était légal. Vous, en tant qu'expert des questions électorales, qu'est-ce que vous en pensez?
Madame, tout le monde se bat sur place, leur argumentaire trouve comme sous-bassement quoi. C'est à ce moment-là, nous nous référons maintenant à la deuxième source de blocage, c'est la charte de chef de confession religieuse qui a été signé sous scène privée. Et la chef présentée de la crise, madame, la ville d'interprétation de l'article 17. Il a dit qu'il est habilité de désigner. Quelle confession religieuse est habilité de désigner? On n'a pas nommé le contenu, on n'a pas explicité, madame, cette confusion du contenu qu'on devait donner à chaque bishop de confession religieuse qui est un peu privé. Madame, c'est là où nous arrivons à ce qui se passe aujourd'hui. Et bien, ce que nous disons, la même charge avec aussi d'autres lacunes, madame, excusez-moi. Est-ce que la charge avait prévu des régimes de sanctions en cas de corruption au niveau des confessions religieuses, en cas d'intimidation, et comment arriver à sanctionner un camp qui serait rendu victime ou en possédé de preuves de corruption ou d'intimidation? C'est, la charge est restée muette. Et c'est pourquoi les deux instruments qui nous plongent dans une confusion d'interprétation. C'est pourquoi nous disons, madame, aujourd'hui, que faire? Parce que les uns et les autres disent que non, on doit revoir, on doit dire oui, on doit revoir. On doit revoir quoi? La loi organique pour changer les acteurs, la sous-composante confession religieuse, qu'ils ne puissent plus s'occuper des données des candidats là-bas pour que les confessions religieuses s'occupent les unes de l'évangile, de la Bible et du Coran, et qu'on trouve un autre mécanisme. Est-ce que l'État est avec nous si on va recourir à ce mécanisme? Nous disons non. Et c'est pour nous disons, nous nous trouvons maintenant devant un fait accompli. Que faire? Et c'est là que nous demandons, nous interrogeons la classe politique. Parce que vous nous avez fait entendre deux honorables députés qui avaient signé un document. Ils ont signé un document relatif au procès électoral. Ils étaient tous d'accord. Toutes les deux familles politiques opposées majoritaires qui viennent parler à la... Ils étaient d'accord pour que le procès électoral devait aller comme tout. Et maintenant, ils se sont rattrapés. Et tu as rattrapé, tout en oubliant, madame, parce que tout le monde cherche les deux familles politiques. Nous voulons des élections apaisées. Or, les élections apaisées sont intimement liées à un environnement politique apaisé.
Jérôme Bosso, cet entérinement est légal ou illégal?
L'entérinement de nos candidats à la CENI ne relève pas d'un individu qui peut se dire c'est légal ou illégal. Ça relève de la compétence des juridictions compétentes à la matière. Parce qu'à l'œil nu, on ne possède pas tous les éléments pour se dire c'est illégal ou pour encore c'est légal.
Merci.
Qui s'occupe le juge électoral qui peut se prononcer là-dessus, allusion faite à la Cour constitutionnelle.
Maître Hervé Diakiesse, porte-parole du comité laïque de coordination, celle-ci en sigle, membre de la société civile. Quelle lecture vous faites de tous ces débats autour de l'entérinement des membres qui doivent constituer le bureau et la plénière de la CENI?
Bien, merci beaucoup. Je vois la difficulté qu'a eu mon prédécesseur, mon cher aîné Jérôme Bonso, pour qualifier la nature du processus d'entérinement. Je vais moi donner des éléments qui militent pour estimer que ce processus a été irrégulier et partant illégal. Et après, je vais aussi donner quant au fond un peu quelle est aujourd'hui la situation devant laquelle nous nous retrouvons. S'agissant d'abord de la nature exacte du processus, effectivement, le processus de désignation de candidats a été fait au niveau des confessions religieuses qui se sont butées à une impasse au sujet des questions de menaces, corruption et tout un ensemble d'actes qui ont remis en cause l'intégrité du processus de désignation. Et vous vous rappelez que les confessions religieuses, du moins celles qui président cette plateforme, avaient pris comme dernier compromis que les deux candidatures qui avait été présélectionné, donc à savoir la candidature de Nikadima et la candidature Cyril Ebotoko, puisse être écartée pour revenir à un nouveau processus de sélection. C'est là où l'impasse a surgi, parce qu'un groupe de six s'est rebouté sur Nikadima et les deux confessions religieuses catholiques, Cinco donc et les CC, sont restées au principe qu'il fallait revenir à la case de départ. De ce fait, leur propre charte a établi un bureau qui est présidé par la CINCO avec pour vice-présidence les CC. C'est ce bureau-là qui saisit les institutions, qui représente la plateforme des confessions religieuses, c'est ce bureau qui signe les correspondances et qui valide les PV. C'est même, si vous vous rappelez, que dans l'affaire Ronsard-Malonda, le chef de l'État a refusé d'entériner de signer l'ordonnance d'investiture après le processus d'enterrinement par le bureau Mabunda, au motif que la plateforme confession religieuse n'avait pas du tout signé le procès verbal qui avait été transmis à l'Assemblée nationale, dès lors que la présidence établie par la charte de cette plateforme n'avait pas signé les documents. Donc ça, c'est un premier élément qui milite déjà sur l'irrégularité, parce que la commission paritaire de l'Assemblée, qui a fait rapport pour l'enterrinement, a reçu un rapport d'un groupe qui n'engage pas la plateforme. Un groupe de membres de cette plateforme, les six, mais qui ne constitue ni du président ni du vice-président. Et c'est exactement le premier élément du décor qui avait prévalu lors de la désignation contestée et refusée par le chef de l'État concernant Ronsard Malonda. Le deuxième élément d'irrégularité, c'est la commission paritaire. La commission paritaire, par paritaire, on entend une commission qui ne peut pas être monolithique. C'est une commission qui doit être hétérogène. C'est pas un seul groupe politique. Donc, forcément, elle représente les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit de la question électorale qui doit avoir le consensus le plus large possible au sein de forces politiques en présentant pouvoir, majorité et opposition. Or, cette commission n'a statué que avec les membres d'un groupe précis, d'un groupe proche du pouvoir, d'un groupe proche de la majorité. Donc sans l'opposition, le caractère paritaire se perd par essence. Et pourquoi ce caractère paritaire n'a pas pu être tenu? Parce que dès le départ, la querelle en amont de la contestation des modalités de désignation de Denis Kadima par le groupe des six confessions religieuses qui a continué les processus sans que leur présidium n'ait pu saisir les instances en ce qui concerne cette désignation. À partir de là, on devrait toujours voir la nécessité pour une commission paritaire de siéger dès lors qu'il n'avait pas reçu régulièrement un procès verbal établi sur la charte. Et de ce fait, vous passez par ce rapport de cette commission paritaire au cours d'une plénière chahutée, chaotique et totalement désordonnée qui a laissé la population tantôt pour une question aussi sérieuse qui détermine l'exercice de la souveraineté de la population et qui vraiment est dans le même contexte encore, malheureusement, on ne tire pas les leçons du passé de la désignation de Ronsard Malonda. Nous nous retrouvons dans quoi? Ça, c'est une accumulation de faits qui démontrent l'irrégularité, l'illégalité et mais surtout un mépris total de l'exercice du peuple souverain de son droit de vote. Et maintenant, ça nous amène à quoi? Donc ça, c'est les éléments liés à l'irrégularité et à l'illégalité. Jérôme Bonsou a dit quelque chose d'important, et que, c'est que pour tenir des élections, il faut toujours qu'il y ait un consensus électoral.
Est-ce que c'est possible d'avoir ce consensus électoral, Maître Hervé Diakiesé?
Le consensus électoral est une nécessité. Il consiste à ce qu'on se mette tous d'accord sur les règles du jeu et que nous le respections et qu'on ne puisse pas en galvauder un seul instant les principes. Parce que tout le monde est susceptible d'être compétiteur et au moment où nous parlons, personne n'a l'assurance qu'il pourra gagner les élections en 2023. On n'est que dans le domaine des spéculations, donc tout le monde peut partir à égalité parce que c'est le principe. Et le peuple souverain doit se déterminer. Et par exemple, en ce qui nous concerne le CLC, pourquoi nous insistons sur ce consensus? Parce que les élections, le prix de l'alternance, nous l'avons obtenu en ce qui nous concerne au prix du sang. Au prix du sang de nos martyrs. Au prix de nos martyrs qui ont été tués dans les églises. Au prix de ceux d'entre nous qui ont été emprisonnés. Au prix de ceux d'entre nous qui, jusqu'à aujourd'hui, portent les stigmates des balles, des blessures et ont été estropiés. Donc ce n'était pas un cadeau. Organiser des élections crédibles, transparentes, ce n'est pas une faveur qu'on nous accorde. C'est un droit que nous avons obtenu au prix du sang et que nous serons toujours prêts à défendre quel qu'en soit le prix. Et nous l'avions prouvé. Mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Ne peut-on pas tirer les leçons du passé, nous asseoir et regarder dans la même direction
pour dire nous voulons que les élections soient crédibles.
Est-ce que là, c'est une façon de dire qu'il faut tout reprendre à zéro, maître Hervé Diakhiessé?
Non, il n'y a rien à reprendre à zéro. Il y a à tirer les conséquences que les mêmes causes produisant les mêmes effets, étant dans des circonstances objectivement comparables, le chef de l'État n'a pas à investir des candidats à la direction de la CENI.
Justement, si le chef de l'État n'a pas... Si le chef de l'État n'a pas à investir ces personnes désignées de façon irrégulière, comme vous le dites, ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles personnes, trouver de nouveaux candidats, proposer un nom à l'Assemblée.
Dans la transparence, effectivement.
Mais entre-temps, on parle du délai. On parle du respect du délai constitutionnel. Est-ce que ça ne risque pas de retarder les élections à venir?
Mais nous avons toujours ces mêmes dossiers et on nous rappelle on doit choisir entre la précipitation ou alors des élections totalement médiocres et pour lesquelles nous avons quand même payé les prix du sang. Normalement, si nous revenons à la case de départ, c'est une affaire qui peut se régler en une semaine parce que tout le monde aura respecté les règles du jeu.
Merci.
Nous sommes restés aussi longtemps parce qu'il y avait un groupe qui s'arc-boutait autour d'une personne et un autre qui disait c'est celui-là ou rien. Mais alors même que ce qui était important et la Cinco, comme les TC l'ont relevé, c'était de revenir que chaque groupe présente d'autres candidats parce que les compétences existent dans ces pays et qu'on ne peut pas conditionner les élections de tout un peuple à des noms précis.
Merci,
non,
maître.
Sur les principes et les valeurs. Et sinon, aujourd'hui, donc je le répète encore, il faut que on rentre à la case des désignations d'autres candidats, parce que comme dans les cas de Ronsard Malanda, le processus a été entaché de très graves irrégularités et il n'augure rien de bon sur le consensus électoral et l'intégrité du scrutin à venir. Et nous ne pouvons pas nous permettre ces luxes-là, après autant de morts, après autant de sacrifices, après autant d'emprisonnements, nous risquons d'exposer notre pays.
Merci.
À des situations
sans doute. Maître Hervé Diakhiessé, Christian Monlecker, vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre point de vue sur ces débats autour de l'enterrinement des membres qui doivent constituer le bureau et la plénière de la CENI, cet enterrinement qui pour certains est légal et pour d'autres est illégal.
Merci beaucoup pour l'opportunité, madame. Je crois que d'un premier constat, on pourra simplement constater, si on fait la photographie des événements, c'est que nous avons aujourd'hui un changement des rôles, mais un paradigme qui ne change pas. Ça veut dire, il y a quelques années, c'était l'opposition qui est la majorité actuelle au pouvoir, qui s'est trouvée dans la posture du FCC d'aujourd'hui, et inversement, le FCC est dans la posture de l'opposition. Ça veut dire que l'histoire se répète avec des acteurs qui changent de rôle, mais fondamentalement, les paradigmes n'ont pas changé. Et ces paradigmes, c'est quoi? C'est que nous avons toujours une volonté de prise de contrôle de la CENI par une famille politique ou un autre acteur. Nous avons toujours un processus sahuté et contesté. Nous avons toujours une société civile extrêmement politisée et qui sert de zone de tampon pour les acteurs politiques et donc les appendices des débats des politiques. Et en fin de compte, vous aurez un processus contesté, sahuté et à terme une instabilité politique liée à la contestation. Donc nous avons pratiquement réuni les mêmes éléments que nous avons depuis 2006 et qui laissent augurer d'un processus encore presque chaotique en 2023. Donc globalement, nous n'avons pas avancé, nous avons fait du surplace alors que nous étions censés, après 3 expériences électorales, aboutir à un processus plus inclusif et plus crédible qui nous permette de consolider la démocratie. C'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nous avons totalement affaibli la démocratie, notre processus politique qui devrait nous construire une démocratie consolidée, et que cela se fait remarquer de plus en plus par cette méfiance qu'a l'opinion autant sur les acteurs politiques que sur la société civile. Donc nous sommes en train d'écrire un processus, une histoire qui est déjà écrite, et qui va donner certainement les mêmes résultats.
Christian Monlecker, vous pensez qu'il faut absolument un consensus pour avoir un bon processus électoral?
Je pense personnellement que si nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé, il faudrait aller vers un processus qui soit plus global et plus inclusif. Donc il faut ouvrir les passerelles des négociations, mais en même temps, je me demande, est-ce que nous ne sommes pas dans une logique de compréhension de la crise? Parce que si vous avez une crise dans la crise, et qu'à chaque fois il faudra retrouver un consensus, et à un moment donné nous serons soumis à un choix, soit nous aurons un plus large consensus dans le retard, donc le glissement, soit nous aurons un processus chaotique dans le délai. Et cette équation-là est une équation qui se répète tout le temps, c'est choisir des élections dans le délai, parfois chaotique, ou la volonté d'avoir des bonnes élections dans le glissement. Et donc l'enjeu derrière tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est probablement un décor de glissement qui se dessine, parce que en termes de délai, nous sommes en train de grignoter les limites d'un consensus cohérent et planifié dans le temps. Donc ouvrir un consensus, oui, c'est le souhait, mais en même temps je me pose la question si la recherche du consensus n'aura pas pour conséquence de nous amener vers un glissement tant redouté par tous les acteurs.
Maître Hervé Diakhessé s'est posé une question tout à l'heure. Faut-il organiser des élections dans la précipitation parce qu'il faut respecter le délai constitutionnel, ou bien il faut organiser des bonnes élections crédibles et transparentes?
Bon, moi je pense qu'il nous faut avoir des bonnes élections crédibles dans le délai. Est-ce que cette chose n'est pas faisable à l'état actuel? Si les acteurs peuvent se dépasser, c'est possible d'avoir un consensus dans le délai. Par contre, connaissant nos acteurs politiques et les agendas derrière tous les calculs que se fait, il est probable qu'on nous amène dans une compétition de la crise qui a pour finalité, en fait, de nous amener vers un dialogue puis un glissement.
La procédure n'est pas terminée. On attend la nomination par ordonnance présidentielle du bureau de la CENI. Selon vous, Christian Moleka, avec tous ces débats autour de cet entérinement, toutes ces protestations, que doit faire le président de la République pour avoir un processus apaisé? Doit-il confirmer l'entérinement de ces membres de la CENI, où il devra attendre, observer?
Tout dépend de l'enjeu. Quel est l'enjeu pour le président? L'enjeu pour le président est de gagner du temps, ou est-ce l'enjeu pour le président, c'est d'avoir des élections? On parle d'un président qui a perdu 2 années de son mandat au début, avec un bilan presque mitigé, et qui a besoin de temps pour mettre en œuvre sa politique. Et donc, si la stratégie du président, c'est de gagner du temps, eh bien, il répondra conformément à ce qu'a dit M. Hervé Diakhessé, en rouvrant les portes du dialogue, avec le risque d'englissement au-delà de 2023. Si par contre sa volonté est d'aller fermement avec une pression extérieure vers les élections, il va faire un forcing, quitte à avoir un processus chaotique, mais qui lui permettra d'avoir des élections dans le délai. Donc les deux options sont possibles selon l'agenda qui nous est inscrit.
On va prendre ces auditeurs qui appellent sur notre standard, ces auditeurs qui veulent aussi donner leur point de vue. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa. Pour vous, Jérôme Bosso.
Professeur Emmanuel Mukundi, député national élu du territoire de Nyunzu dans la province de Tanganyika. Par rapport à cette question de la CENI, pour ma part, je considère ça comme un match de football où nous avons les acteurs qui sont sur le terrain, puis nous avons la VAR. Évidemment, les acteurs, ce sont les politiciens au niveau de l'Assemblée nationale, et nous avons le premier arbitre, c'est M. Mbosso. Alors, Mbosso qui a provoqué un pénalty mal jugé, et donc il ne reste que la VAR. Pour mon cas, et pour les cas d'ailleurs de la République, la VAR, c'est le président de la République. Il est le seul qui nous regarde au travers les images. C'est lui qui est le garant de la nation, et donc c'est lui qui doit protéger la démocratie dans notre pays, c'est lui qui doit protéger la cohésion et les vivre ensemble. D'autant plus qu'il y a un parallélisme des formes. C'est lui-même qui a déclaré le cas de Malonda comme illégal, et c'est lui qui a rejeté les cas de Malonda, et par conséquent, pour ces cas aussi, des cas d'Iman et son groupe, le président de la République ne va pas hésiter de pouvoir rejeter, parce qu'il ne peut pas accepter les choses illégales. Les choses sont illégales parce que, comprenez que la composition de cette commission n'est pas paritaire, c'est une commission uniquement Union Sacrée. Et donc déjà le point de départ, Mbosso ne pouvait pas faire passer ça. La responsabilité de la nation aujourd'hui est entre les mains du président de la République.
Jérôme Mbosso, le président de la République, doit protéger la démocratie, il doit rejeter cet entérinement des membres de la CENI par l'Assemblée nationale.
Cela relève aussi des attributions du chef d'État en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. Mais c'est à lui qui reviendrait premièrement pour apprécier, voir de quel côté il pourrait se pencher. Mais à ce qui arrive au président de la République, nous demandons de rendre justice à propos de cette controverse en ce qui concerne la désignation du candidat président de la Commission électorale indépendante. Mais tout nous vient d'où? Ça nous vient de la merde, je le répète. On nous a mis dans une merde par la loi organique, même par la charte de confession religieuse. Et les chefs de confession religieuse en sont aussi toutes les 8. confession religieuse sont responsables. Mais ici, nous nous trouvons devant une situation. Ça se procède par des pénalties. Qu'est-ce que nous avons apporté là? Parce qu'au niveau en amont, madame, on devait être vigilant et regardant. On avait déposé cette proposition de loi qu'on appelait loi Lutundula. La proposition de loi Lutundula disait que 15 membres de la CENI qui composent la CENI, 6 venant de la majorité, 4 de l'opposition et 7 des organisations de la société civile. Les 15 membres là devaient se mettre autour d'une table et parmi eux, ils allaient désigner un président. À ce moment-là, les confessions religieuses n'allaient pas avoir les kilos de dire que c'est lui qui a amené, c'est lui le président. À ce moment-là, on n'allait pas assister à ce match de football selon le professeur Emmanuel, qu'on n'allait pas assister à l'épreuve des tirs de pénalty. On n'allait pas y assister. Mais quand même, nous, on doit voir en amont qu'est-ce qui est à la base. Nous disons clairement que la tête politique congolaise, majorité opposition, ils ont signé une déclaration qu'on appelle protocole d'accord relatif au procès électoral. Dans ce document signé par les deux familles politiques, ils ont souscrit à ce procès électoral. Tout le monde était avisé, tout le monde était informé qu'il y a des salles vapeurs. Si vous retenez sous-composant confession religieuse et vous le dites aussi, vous l'indiquez dans la loi et c'est celle qui doit désigner un candidat président et vous lancez des choses. Même si on
mais qu'est-ce qu'il faut faire, Jérôme Bosso, pour avoir un processus électoral apaisé?
Il faut se regarder en face. Soit il y a deux options, soit on prend acte de ce qui a été fait par l'Assemblée nationale. On réfléchit, on dit, on regarde du temps qui nous reste, prenons acte et on avance. Soit on dit non, on doit encore se revoir, se définir et demander aux uns et aux autres pour qu'il y ait un large consensus qui se regarde autour du candidat qui est déjà désigné, oui ou non. Et ce sont des options qui puissent nous aider à arriver à un environnement électoral apaisé.
Est-ce que vous faites allusion à un dialogue?
Bon, moi, je ne parlais pas en termes de dialogue. C'est en termes d'arrangement.
Oui, mais ça sera comment?
De ça sera de familles politiques et de la classe politique qui puissent se décider pour dire est-ce qu'on peut continuer pour ne pas perdre du temps. Est-ce que l'option, si tout le monde est d'accord sur cette option, qu'on continue avec ce qui est déjà présenté, on continue. Les mêmes confessions religieuses, ils ont toujours assisté à 2001. 2018, quand il contestait les candidats, c'est ce candidat qui contestait là, que l'autre branche de confession religieuse parvenait à faire entériner par le président de la République. Voilà, c'est l'histoire, la jurisprudence électorale dans notre pays, comme sous la confession religieuse. Donc ici, nous devons nous regarder en face. Qu'est-ce que nous voulons encore? Et demain, parce qu'il ne suffit pas de régler tout ce que nous sommes en train de faire pour 2023, mais 2028, est-ce que nous allons encore recourir aux mêmes confessions religieuses à qui on va encore donner la responsabilité, quand bien même toutes les confessions religieuses de ils se disent maintenant être trafiqués, ils se disent maintenant être corruptés et corrompus, et est-ce qu'on va encore y arriver? Donc, pour éviter cela, moi je crois que les législateurs congolais doivent voir comment ils doivent rectifier le tir pour qu'on puisse pas encore recourir à la sous-composante de la société civile, parce que la société civile égorge des organisations spécialisées en cette matière, dans la thématique élection, et qu'on laisse nos pères spirituels se reposer dans des paroisses, dans des mosquées et dans des églises pour prêcher la parole de Dieu.
Christian Moleka, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Christian Bokungu, depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. À mon humble avis, je pense que seul le chef de l'État peut sauver le pays à ce stade actuel, vu que le même processus n'a pas abouti à l'entérinement de M. Rosar Malonda. Il serait mieux que les garants du bon fonctionnement des institutions sauvent sa nation à ce stade actuel de ne pas entériner M. Kadima, vu que la CENI est un dossier très sensible et que le processus a été entaché de beaucoup d'irrégularités et non consensuelles. On doit reprendre le processus car on n'organise pas des élections pour organiser, mais c'est la vie de tout un pays qui est en péril. Et grave encore, et notre cas se réjouit comme si c'est réellement M. Kadima serait dans un cas politique, ce qui n'est pas normal dans un pays qui se dit démocratique, où l'état des droits règne. Or, l'état des droits, c'est aussi le respect des textes de la République.
Christian Moleka, que pensez-vous de ce point de vue des Crispins qui nous a appelé des petits Sangani?
Bon, je remercie Crispin pour son point de vue. Je crois qu'à un moment donné, les événements politiques permettent de révéler un homme. Hein. Nous sommes à un moment important de l'histoire politique qui peut l'inscrire soit comme l'homme qui a permis au pays d'avoir des bonnes élections après trois cycles, ou l'homme qui aura été l'homme de la continuité, puisque les Congolais ont voté pour l'alternance. Et l'alternance, ce n'était pas simplement l'alternance de personnes, c'était davantage l'alternance de changement de paradigme. Et donc, nous sommes à un moment important de notre histoire politique. Le président peut, par son choix, nous aider à traverser ce pic-là, ou il peut s'inscrire en acteur politique comme ses prédécesseurs et jouer la carte du jeu politique personnel. Donc c'est à lui de décider quelle place il voudrait que l'histoire lui réserve demain.
Mais vous, en tant que politologue, pour sauver ce processus électoral, qu'est-ce que vous proposez, Christian Moleka?
En tant que politologue, je suis pour le consensus le plus large. Je suis pour une ouverture du consensus. Il nous faut un consensus pour que nous n'ayons pas un processus chaotique. Il faut ce consensus-là. Et ce processus-là peut se jouer dans le délai si nos acteurs politiques apprennent à se surpasser.
Maître Abedia-Kiesse, on lance une réaction pour vous qui nous vient de Mahagui dans la province de l'Ituri.
Félix Soudongo Moussoua, depuis le territoire de Mahagui dans la province de l'Ituri. Au stade actuel, les politiciens et les deux confessions religieuses qui s'opposent contre l'atterrissement de cette nouvelle équipe de la CENI doivent cesser de diffaire l'opinion tant nationale qu'internationale. Ils doivent laisser les processus évoluer pour la mise en place rapide de ces bureaux. Il n'est pas du tout important qu'on puisse toujours tourner à rond autour de ces dossiers du nouveau bureau de la CENI, car cela risquerait de favoriser le glissement au pouvoir à Planche et fera l'objet de la justification. Donc le peuple congolais est fatigué de ce genre de distraction qui ne profite qu'aux politiques qui cherchent leurs intérêts en ayant également leur mainmise sur cette institution d'appui à la démocratie.
Maître Diakissé.
Oui, j'ai bien suivi notre ami de l'Ituri et je comprends son exaspération. Je tiens à rappeler deux choses. Quand nous lisons notre constitution, on se rend bien compte que cette constitution est le fruit d'un accord de paix. Cet accord de paix est issu du compromis politique global de San City. Et l'un des éléments de ces préambules dit que l'une des raisons pour lesquelles notre pays a connu des troubles armés a été le fait qu'il y avait une confiscation du pouvoir politique par un groupe d'individus. Et malheureusement, l'alternance n'avait pas pu être obtenue de manière pacifique, il a fallu prendre les armes. Donc l'un des éléments pour lesquels les élections ont été conçues, ce n'est pas pour comme une fin en soi, c'est pour apaiser les mécanismes par lesquels nous pouvons accéder au pouvoir sans discrimination, sans être écarté du fait d'appartenir à un groupe donné ou être perçu comme étant opposant ou être perçu comme étant pro un groupe politique donné. Alors, si jamais on commence à galvauder le principe de l'alternance politique, le principe de l'expression du suffrage, le principe de l'exercice de la souveraineté, pour lequel notre peuple a payé un prix, le prix du sang. Nous avons des martyrs, des gens qui ont été arrêtés, des gens qui aujourd'hui portent des stigmates dans leur chair de leurs revendications pacifiques pour les élections. Eh bien, nous allons aboutir à une désespérance et à la révolte populaire. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et surtout, si ça n'était que la révolte, si ça n'était que la désespérance, mais nous ouvrons la brèche dans un pays qui aujourd'hui est dans une situation fragile sur le plan sécuritaire. Ce n'est pas pour minimiser les efforts méritoires qui sont en train d'être menés, mais si nous avons été sous assistance armée des Nations Unies, il y a bien une raison pour cela. Si nous avons autant de groupes armés qu'on essaie de réduire, il y a bien une raison pour cela. Si une partie du pays est sous état de siège, il y a bien une raison pour cela. Et si en plus vous ajoutez la grogne sociale et la précarité de la population, nous ne pouvons pas nous permettre les luxes d'une crise électorale, c'est amener les pays vers la débâcle et vers des situations que nous ne voulons plus revoir depuis les années 60. Donc c'est une question de responsabilité. Aujourd'hui, on a beau dos de traiter les clergés catholiques ou protestants de tous les noms, mais les politiques oublient que quand ils ont fini de casser la vaisselle, c'est bien ces clergés-là auxquels on recourt pour venir aider à trouver un compromis avec ses adversaires, avec l'opposition, avec la société civile, avec la population en colère. Les accords de la CENCO, vous vous rappelez, c'est pas les clergés qui est parti chercher les gens. Hein, ce sont les politiques au pouvoir qui sont partis chercher les prêtres pour les aider à trouver un compromis. Donc évitons d'en arriver là. Tirons les leçons du passé.
Merci.
Regardons l'histoire récente de notre pays. Lisons notre constitution. Le fragile équilibre que nous avons dans ces pays mosaïques de peuples tient au fait que
on a la possibilité reconnue à chaque Congolais d'exercer librement le droit de choisir ses dirigeants. Si simplement une perception est donnée aujourd'hui qu'on peut leur confisquer ce droit-là, nous ouvrons la porte à la boîte à Pandore et personne n'est sûr de la refermer à son avantage.
Merci, maître Diakissé. On va prendre quelques autres réactions des auditeurs. C'est Vera Toumoua depuis Bukavu Sud-Kivu. Quand on entend les différentes positions des uns et des autres, nous pouvons dire que le processus électoral est tendu et porteur des germes des conflits. Le président de la République étant le garant de la bonne marche des institutions, il n'a besoin ni de la position de ses députés qui ne songent qu'à leur survie politique, ni même de son parti, mais seulement de sa conscience pour éviter au pays de retomber dans l'abîme des contestations électorales avant, pendant et après les élections. Rémi Lokonga, qui s'engagne dans la province de la Tchopo, les débats controversés sur l'entérinement des membres de la CENI est tout à fait normal dans une société qui se veut démocratique. Cependant, il est tout à fait difficile, pour ne pas dire impossible, de parvenir à un candidat consensuel au regard de toutes les divergences entre la classe politique. Le plus important serait de regarder dans la même direction pour sauver la nation. Le président de la République est devant ses responsabilités, soit signer l'ordonnance et amplifier la crise, soit faire le contraire du choix des élus pour jouer à l'apaisement. Jérôme Bosso.
Nous déplorons, madame, les difficultés dans lesquelles, je le répète, la loi organique sur la CENI et la charte des chefs de confession religieuse nous ont plongé dans une mer et dans une cacophonie indescriptible. C'est de là que nous avons dit pour s'en sortir. Nous lançons un appel au président de la République, aux familles politiques majorité et opposition représentées à l'Assemblée nationale et à la sous-composante de la société civile confession religieuse, de contribuer à ce que nous puissions créer un environnement électoral apaisé. Si nous voulons que les élections de 2023 puissent aussi être apaisées, sans lequel nous risquons de nous plonger dans une crise indescriptible, nous ne voulons pas, nous voulons que 2023 puisse être, du point de vue organisationnel, planification des élections, ça puisse être différent de 2006, de 2011, et de 2018. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, que nous puissions prendre acte de ce que nous avons vécu des années antérieures du point de vue organisation des élections au regard des personnalités ou bien des organisations pourvoyeurs des membres de la CENI et sur la liaison faite à la sous-composante confession religieuse.
Merci Jérôme Bosso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes et aussi coordinateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées. Christian Molika, ça sera aussi votre conclusion. Vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Avec toutes ces contestations, pouvons-nous dire que le pays est mal parti pour les élections de 2023?
Je suis au regret de vous dire qu'effectivement nous sommes mal partis parce que le climat aujourd'hui est délétère, le processus est porteur de contestations déjà, et qu'avec ces prémices-là, on ne peut qu'aboutir aux conclusions que nous avons eues en 2006, en 2011, en 2018. Malheureusement, les années passent, mais au Congo, l'histoire c'est un poisson qui se mord la queue et qui se répète tout le temps. Nous ne sortons pas des paradigmes anciens, nous changeons des acteurs, mais le paradigme demeure le même, alors que l'alternance, comme je l'ai déjà dit tantôt, ne devait pas être une alternance uniquement de personnes, mais des paradigmes. Tant que nous ne changerons pas les paradigmes et que les acteurs qui se succèdent reprennent les éléments de langage d'hier recyclés pour aujourd'hui, eh bien nous tournerons toujours autour de la même vaisselle et malheureusement ce sera le peuple qui va trinquer.
Maître Hervé Diakissé, porte-parole du comité laïque de coordination, membre de la société civile, une certaine opinion pense que toutes ces contestations sont faites par des partis en mal de positionnement.
Le seul positionnement pour un parti, c'est la conquête du pouvoir et l'arbitre, c'est le peuple. Tout ce que nous demandons, c'est que le peuple puisse exercer librement son droit d'arbitrage et n'ait pas l'impression que les jeux sont déjà faits et qu'il lui a été confisqué la latitude d'exercer sa souveraineté et d'opérer son choix. Il faut savoir que l'unique moment où nous sommes tous à égalité, où la voix du président de la République vaut la voix de n'importe quel autre citoyen, c'est les jours où nous partons voter parce que nos bulletins se valent et nous avons tous une voix. Et avoir l'impression que nos voix ne comptent pas, c'est nous dénier notre qualité de citoyen. Nous devons à un moment donné, en tant que Congolais, nous poser la vraie question. Est-ce que nous voulons réellement organiser notre pays dans les normes que nous nous sommes nous-mêmes fixées, ou bien nous estimons toujours que, à un moment donné, nous pouvons nous en passer, nous pouvons les galvauder, nous pouvons les truquer, nous pouvons les tronquer, et espérer en même temps avoir des résultats différents, alors que l'histoire récente, comme l'histoire du passé, nous a démontré les conséquences lourdes que ce genre de comportement occasionne au pays. Donc il est encore possible d'avoir une autre voie. Il est encore possible de sauver cette situation. Il est encore possible, et les peuples congolais les méritent, et le peuple congolais l'exige, d'avoir des élections qui soient crédibles avec des acteurs qui aient un minimum de consensus pour ce qui concerne leur impartialité et leur courage à annoncer les bons résultats.
Merci, Maître Harvey Diaké. C'est Dialogue Monde Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Michel Outeté, Dona Madimba, sous la supervision de Martin Seboujangwe qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Alain Goy, présentation et coordination Kélin Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.